France Culture.
C'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. En moins de 24 heures, l'armée israélienne a frappé plus de 150 cibles sur la seule ville de Gaza. Nous écouterons le témoignage de familles palestiniennes contraintes de fuir sous les bombes pour échapper à la mort. Alors depuis hier, cette offensive est très largement condamnée à l'étranger et notamment en Europe. Avec notre invité, on tâchera de détailler la liste des sanctions proposées par la Commission à l'encontre d'Israël. L'actualité en France, ce sont toujours et encore les tractations en vue de la formation d'un gouvernement. Sébastien Lecornu reçoit depuis ce matin ses opposants politiques sans grande marge de manœuvre en réalité pour discuter. On parlera aussi taxation des biens professionnels des plus riches. Enfin, plusieurs pépites d'or ont été dérobées cette semaine au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris qui déplore une perte inestimable. À quand la fin du carnage à Gaza, quand la France fustige une campagne destructrice sans plus aucune logique militaire? Londres dénonce pour sa part une offensive totalement irresponsable et épouvantable, une situation moralement, politiquement et légalement intolérable, résume le secrétaire général de l'ONU. En lançant hier sa redoutable machine de guerre sur la ville de Gaza, Israël s'est attiré non seulement les foudres d'une bonne partie de la communauté internationale, mais aussi les cris de protestation désespérés des familles d'otages, sans pour autant renoncer donc à son objectif de resserrer jusqu'à la destruction finale son étau sur la ville, la plus grande agglomération de l'enclave, ou du moins ce qu'il en reste, considéré par l'État hébreu comme le principal bastion restant du Hamas. Un déluge de feu d'une intensité telle que l'écho et le rugissement des explosions sont perceptibles aujourd'hui dans toute la bande de Gaza. Des scènes d'apocalypse, un véritable cauchemar duquel la population déjà terrassée par la faim et jetée dans les rues n'a d'autre choix à présent que de s'échapper par des routes de passage temporaires, seule issue possible pour fuir au mieux une souffrance indicible, au pire une mort programmée. Alors on estime aujourd'hui à 600 000 le nombre de personnes toujours présentes à Gaza, soit environ 60% de la population qui n'a pour seul toit bien souvent que le ciel au milieu des amas de ruines. Et pour eux, la question qui se pose reste inexorablement la même depuis des mois: fuir, mais pour aller où? Notre correspondant à Jérusalem, Thibault Lefebvre, a pu recueillir ce matin le témoignage de plusieurs familles prises au piège et qui n'ont nulle part où évacuer.
Une habitante me disait encore hier soir qu'elle voulait quitter la ville de Gaza, mais qu'elle ne pouvait pas. D'abord parce que les zones littorales au sud, ces zones dites humanitaires, sont saturées. Et puis parce que ça coûte très cher de partir, 500 euros par exemple, pour prendre un bus entre la ville de Gaza et Al-Bourej, c'est à seulement 10 km. Alors pour le moment, elle reste malgré des bombardements de plus en plus intenses. Même dilemme pour Rim. Elle est maman de 5 enfants. Elle est interviewée par la journaliste Ferial Abdou. Et elle était encore ce matin assiégée dans sa maison.
La situation est très difficile. Nous sommes bloqués chez nous, nous entendons le bruit des chars. Les enfants ont très peur, surtout la nuit. Nous détestons la nuit. Le bruit des chars est effrayant et celui des avions est terrifiant. Nous avons peur de sortir, peur d'être tués. Les chars encerclent la maison puis reviennent. Nous ne pouvons pas sortir.
Et Rim raconte ne plus avoir assez à manger pour ses enfants. Elle a conservé quelques dattes, mais le stock s'épuise. Et vous l'avez entendu, elle n'a plus accès ni au marché ni à l'aide, parce qu'elle ne peut tout simplement plus sortir de chez elle.
Un témoignage de Gazaoui recueilli par notre correspondant à Jérusalem, Thibault Lefebvre. Alors je l'évoquais tout à l'heure, depuis hier de très nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer cette guerre totale voulue par Benjamin Netanyahou, et en particulier en Europe où les commissaires à Bruxelles doivent approuver aujourd'hui un nouveau train de sanctions contre Israël. Pour en parler avec nous, invité de la rédaction à présent, Hugues Lovat, chercheur au Conseil européen pour les relations internationales. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Peut-être avant d'en venir à la nature donc de ces sanctions, ces derniers jours on a déjà vu en Espagne plusieurs mobilisations en faveur de la Palestine empêcher le tour cycliste de la Vuelta arriver à son terme. Hier, le gouvernement de Pedro Sanchez a annoncé que son pays ne participerait pas à la prochaine édition de l'Eurovision si Israël y prenait part. Même si on le sait, l'Espagne fait historiquement partie de ces pays européens les plus allants donc dans le soutien à la cause palestinienne. Diriez-vous que nous assistons aujourd'hui à une forme de basculement tout de même dans l'ensemble des opinions du vieux continent à l'égard de la politique d'Israël?
Absolument. Je dirais même plus, hein, c'est un basculement historique, je pense. Et c'est pas seulement la gauche politique. Et c'est pas seulement, comme vous dites, les pays qui historiquement ont soutenu la Palestine, les droits palestiniens. C'est aussi, et je pense du point de vue israélien, c'est encore plus dangereux, c'est que ce basculement, ce changement d'opinion se retrouve aussi vers la droite politique, mais aussi dans les partis politiques de droite, y compris en Allemagne, où je pense que 80% des voteurs du parti chrétien démocratique soutiennent des sanctions contre Israël. On voit les Pays-Bas, on voit la Suède, qui sont gouvernés par des gouvernements de droite, aussi maintenant se joindre à ces condamnations contre Israël, mais aussi qui commencent à soutenir des sanctions contre Israël. Donc c'est vraiment un changement majeur, je pense.
Concrètement, en quoi consisteront donc ces sanctions ? Jusqu'ici, elles se limitaient à des mesures plutôt individuelles contre certains ministres ou certains colons en Cisjordanie. Désormais, c'est le cadre des liens commerciaux qui est concerné.
Donc il faut distinguer entre les mesures que les États européens peuvent prendre eux-mêmes et les mesures que l'Union européenne doit prendre. À un niveau national, on peut parler d'embargo, on peut parler d'interdiction d'export d'armes, de carburant pour soutenir l'armée israélienne. C'est ça que l'Espagne propose. On peut parler même de l'interdiction d'import des produits des colonies. Maintenant, au niveau de l'Union européenne, je pense que ce qui est en jeu en ce moment, c'est la suspension des tarifs commerciaux préférentiels octroyés aux produits israéliens eux-mêmes. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les produits israéliens qui seraient exportés en Europe n'auraient plus de tarifs préférentiels et devraient payer des droits douaniers plus, donc viendraient beaucoup plus cher. Et ça, ça va coûter, je pense, des millions d'euros à l'économie israélienne. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui était inimaginable, même il y a un an, deux ans.
Est-ce qu'on peut mesurer justement le coût possible de ces sanctions ? Je crois que l'an dernier, près de 28% des produits israéliens à l'export étaient destinés à l'Europe.
Oui, absolument. Il y a un coût. Parfois, c'est un peu difficile à calculer. Donc, je pense qu'en 2022, il y avait plus de 46 milliards d'euros exportés d'Israël vers l'Union européenne. Donc, beaucoup de ces produits, comme je disais, deviendront plus chers, donc ça va coûter l'économie. C'est aussi un prix qui serait imposé contre les institutions de recherche israéliennes, qui en ce moment bénéficient d'un programme de coopération avec l'Union européenne, qui leur donne beaucoup aussi un accès aussi au réseau éducationnel scientifique européen, mais qui leur donne aussi beaucoup d'argent. Donc, il y a ce prix monétaire, mais je dirais, par-dessus tout, c'est le prix politique, c'est le prix à payer dans l'opinion publique, et quelque part, c'est le prix à payer d'être devenir un pays de plus en plus isolé au plan international. Donc, c'est une perte de légitimité, quelque part, pour Israël.
Une dernière question, en quelques mots, s'il vous plaît. Ce train de sanctions doit désormais nécessiter l'approbation des 27 sous forme de majorité qualifiée, c'est-à-dire qu'au moins 15 États membres représentant 65% de la population de l'UE doivent se prononcer en sa faveur. Cette majorité existe-t-elle parmi les États membres ?
Pas encore, mais on s'approche. Je pense qu'on est vraiment très proche d'une majorité qualifiée. Ce qui manque, c'est le soutien soit de l'Allemagne ou de l'Italie. Et là aussi, on commence à voir un changement. Les Allemands qui se sont rejoints très récemment à ce qui s'appelle la Déclaration de New York, qui soutient un État palestinien, et aussi l'Italie aussi, qui maintenant commence à parler de mesures contre Israël. Donc je pense que c'est clairement la direction dans laquelle on se dirige.
C'est bien compris. Merci Hugues Lovat, chercheur au Conseil européen pour les relations internationales, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Louise Guérin pour la préparation.
Encadré par un dispositif de sécurité exceptionnel, la visite d'État de Donald Trump au Royaume-Uni a débuté ce matin par un déploiement spectaculaire de faste royale.
Oui, une profusion d'honneur, de nature à flatter au mieux l'ego du président américain, lequel s'était lui-même comparé, on s'en souvient cette année, à un monarque. Reste à savoir si en pleine crise économique et sur fond d'affaiblissement des partis traditionnels, le premier ministre travailliste, Keir Starmer, fragilisé politiquement, comme en témoigne la percée récemment des idées d'extrême droite, saura tirer profit de cette visite pour multiplier les annonces. Déjà, son gouvernement a enregistré un investissement massif de 30 milliards de dollars de Microsoft et un autre de 5 milliards de livres de la part de Google. Google, en revanche, les espoirs d'un éventuel accord pour faire baisser les droits de douane actuellement appliqués semblent plutôt ténus. La réserve fédérale américaine va-t-elle abaisser ses taux directeurs sur injonction ou presque de Donald Trump au risque d'alimenter l'inflation, bien que censée œuvrer à l'abri des interférences politiques, l'institution monétaire a été récemment secouée par la démission surprise d'une gouverneure, permettant ainsi aux locataires de la Maison-Blanche de placer à la Fed l'un de ses fidèles, de sorte que sur les 12 votants, 3 pourraient aujourd'hui se prononcer contre la décision majoritaire, ce qui, le cas échéant, constituerait une première depuis 1988.
Midi et 40 minutes sur France Culture, la suite de votre journal, Thomas Cluzel.
Son patronyme renvoie à celui de ses deux oncles, Jean-Michel et Fabien Klein, deux frères responsables autrefois de la propagande de Daesh. Hier, devant la cour d'assises spéciale qui la juge pour association de malfaiteurs terroristes, Jennifer, la nièce âgée aujourd'hui de 34 ans, a fait preuve de contrition. Je ne suis pas là pour nier les faits, j'ai adhéré à ce groupe de tueurs, je suis coupable, je regrette tellement, mais je ne peux pas revenir en arrière, a-t-elle déclaré dès l'entame des débats. À ses côtés, dans le box des accusés, deux autres femmes, également djihadistes, dont la plus âgée, sa belle-mère, Christine Alain, 67 ans. Hier, la cour s'est là aussi longuement arrêtée sur le parcours de cette mère partie en Syrie après s'être convertie à un islam radical, une accusée difficile à cerner, c'est en tous les cas Florence Turmes qui ressort de son audition.
Une enfance chargée de traumatismes, la paralysie de sa mère, la culpabilité que lui font porter ses parents après la mort d'une petite sœur, des violences paternelles, une adolescence révoltée, un viol, une famille qui s'appelle pour les anniversaires et se voit pour les enterrements. Cheveux gris, lunettes et veste marine, Christine Alain raconte d'une voix calme son parcours professionnel, éducatrice à la sauvegarde des enfants, une véritable vocation, jusqu'à ce qu'elle bascule dans un islam radical, dans la foulée de son fils Thomas, celui qu'elle appelle toujours son sauveur, dont elle a été séparée durant 9 mois, internée en psychiatrie après l'accouchement. En prison, elle a obtenu une licence de littérature et, selon le rapport de détention, rompu avec tout prosélytisme. J'en ai fait pendant des années, je n'ai pas l'intention de poursuivre. Reste en revanche un discours ponctué d'ambivalence que souligne l'avocat général. Elle condamne ainsi les attentats suicides, mais parce que le suicide est interdit par l'islam. Elle revoit la terreur dans les yeux de ses petits-enfants lors des bombardements en Syrie. Je me sens aussi responsable de tout cela, lâche Christine Alain, mais ils n'évoquent pas, dit-elle, de mauvais souvenirs de Daesh. Ce qu'ils ont vécu dans les camps, c'est pire. S'inquiète de ce que leur père verrait d'eux s'ils rentraient en France. Je sais ce qui les attend, 30 ans de réclusion. Il vaut mieux être condamné à perpétuité en Irak, être détenu arbitrairement en Syrie, s'indigne une avocate. Christine Alain hausse les épaules, presque fataliste. Je continue à rêver qu'ils soient libérés là-bas.
Après avoir invité ses alliés naturels, après avoir consulté les partenaires sociaux, la vraie rupture tant vantée par Sébastien Lecornu viendra-t-elle de son premier dialogue? Enfin, avec ses adversaires directs, toute la journée, le nouveau locataire de Matignon a prévu de s'entretenir avec le Parti Socialiste, les écologistes, le Parti Communiste ainsi que le Rassemblement National, soit toutes les formations politiques issues de l'opposition à l'exception de LFI qui a refusé l'invitation. Alors bien entendu, c'est surtout la rencontre avec les responsables du PS qui pourrait s'avérer primordial pour Sébastien Lecornu, puisque seul le parti à la rose est en mesure aujourd'hui d'éviter au Premier ministre la censure, sauf qu'au vu des lignes rouges posées de part et d'autre, la marge de manœuvre pour discuter semble réduite à peau de chagrin. C'est Stéphane Robert, bonjour.
Bonjour Thomas.
Vous revenez de Matignon, donc, où le chef du gouvernement a pris langue ce matin avec les responsables du Parti Socialiste. Sait-on, Stéphane, si des points de convergence ont pu être trouvés ou à tout le moins envisagés?
Non. Il n'y a pas eu l'ombre d'un début de négociation et on n'en sait pas beaucoup plus après la rencontre qu'avant. Constat dressé par le premier secrétaire Olivier Faure tout à l'heure à la sortie de l'entretien devant les portes cochères de l'hôtel de Matignon.
Le Premier ministre est resté très flou sur ses intentions. Il continue à consulter. On verra bien ce qu'il répond à l'issue de ces consultations. Pour l'instant, nous sommes restés sur notre faim. Ne cherchez pas, à travers nos propos, à comprendre ce qu'il a dit. Il n'a rien dit.
La rencontre entre Sébastien Lecornu et la délégation socialiste a tout de même duré 2 bonnes heures, car les chefs de file du PS étaient venus avec les résultats d'un sondage qu'ils avaient commandé quelques jours plus tôt à l'Institut IFOP. Sondage qui indique que 86% des personnes interrogées se disent favorables à la taxe Zucman, que la baisse de la CSG qui permettrait une hausse des salaires est plébiscitée à hauteur de 79% et que 66% des personnes interrogées sont favorables à une suspension de la réforme des retraites. Toutes ces mesures font partie des propositions positions socialistes dont la mise en œuvre, disent-ils, permettrait de négocier un éventuel accord de non-censure. Ils les ont exposées, Sébastien Lecornu n'a donc pas répondu. Et les discussions ont finalement bifurqué sur l'équation politique, très difficile à résoudre, soumise au nouveau chef du gouvernement. Il a notamment été question du parti Les Républicains, allié des macronistes au sein du socle commun. Eux aussi ont leurs exigences et elles sont aux antipodes de celles du PS. Les Républicains ne veulent pas de hausse d'impôts, ils demandent une nouvelle loi sur l'immigration. Et si c'est ça, ce sera sans nous, ont expliqué les socialistes au Premier ministre qui, une fois de plus, rapportent ses interlocuteurs, est resté silencieux et énigmatique. Ce premier échange a donc davantage consisté à poser les bases de la discussion à venir et à évaluer la difficulté de l'équation à résoudre plutôt qu'à démarrer une véritable négociation.
Merci Stéphane. Robert, alors on l'a compris, si le Parti Socialiste se dit ouvert à des compromis, il attend surtout des concessions de la part du Premier ministre. Suspension de la réforme des retraites, hausse des salaires, taxe Zucman, et la liste n'est pas exhaustive. Marie Viennot, bonjour.
Bonjour.
L'instauration dans le prochain budget, en l'occurrence, d'un impôt sur les plus hauts patrimoines est une idée dont les modalités suscitent encore de très vifs débats, et notamment avec cette question, Marie, faut-il inclure les biens professionnels dans l'assiette de calcul de l'impôt ?
Oui, et c'est François Hollande qui a ouvert cette porte en reprenant à son compte l'un des arguments principaux des opposants à la taxe Zucman, argument selon lequel l'intégration des actifs professionnels dans le calcul de la taxe pourrait être préjudiciable à l'économie en poussant les entrepreneurs à créer des richesses ailleurs qu'en France. Pour la petite histoire, les biens professionnels étaient exclus du calcul de l'impôt sur la fortune quand il existait encore. Autrement dit, le dirigeant d'une PME ne payait pas d'ISF sur la valeur de son entreprise, tout comme le PDG d'une société du CAC 40 sur la valeur de ses actions dans cette même entreprise. En revanche, les placements financiers non liés à sa propre activité professionnelle faisaient bien partie du calcul. L'un des problèmes de l'impôt sur la fortune, c'est qu'il prévoyait un plafonnement en fonction du revenu et qu'il était possible, par diverses stratégies d'optimisation fiscale, d'en payer peu, même avec un patrimoine très élevé. C'est ce biais que veut corriger l'économiste Gabriel Zucman avec sa taxe, en y intégrant les biens professionnels qui sont l'essentiel de la fortune des plus hauts patrimoines, et notamment ceux logés dans les holdings. Alors du côté des macronistes, on sent une ouverture, car on ne parle plus forcément de biens professionnels, mais d'outils de production. Un ministre cité par l'agence France Presse donne cet exemple. Si vous possédez LVMH et une Rolex dans votre fortune, on compte la Rolex, mais pas les actions LVMH, parce qu'on considère que c'est un outil industriel français. On comprend à cet exemple que le revenu fiscal n'aurait alors rien à voir. L'idée de taxer les plus hauts patrimoines fait néanmoins son chemin, mais quoi taxer dans leur patrimoine ? C'est la discussion qui s'ouvre à peine. Or, c'est une discussion très technique qui mobilise expertise fiscale et juridique et qui souffrira peu les postures politiques.
Merci Marie Viennot.
Après que plusieurs collections publiques, y compris des trésors nationaux, ont été volées ces derniers mois, on a appris que le Muséum d'Histoire Naturelle avait, à son tour, été victime d'un cambriolage.
Oui, c'était dans la nuit de lundi à mardi. Des pépites d'or ont disparu dans la galerie de géologie et de minéralogie où elles étaient exposées, montant total du butin plus d'1 million d'euros. Pierre Repère, bonjour.
Bonjour.
Le musée déplore une perte inestimable pour la recherche et le patrimoine.
Oui, au total, ce sont 5 pépites d'or pour un total de 6 kilos qui ont été dérobées par les cambrioleurs, raconte Gilda Silien, directeur général délégué aux collections du Muséum National d'Histoire Naturelle.
On pense qu'on a affaire à des professionnels. Une vitrine qui était dédiée à des collections d'or natif a été attaquée. C'est de l'or dans son état originel qui vaut 2 à 3 fois plus cher par rapport au prix actuel de l'or sur le marché. Donc on est en fait sur un préjudice qui serait plutôt évalué à 1,5 million.
Mais pour Gilda Silien, c'est avant tout la perte de spécimens avec une grande valeur historique, scientifique et patrimoniale qui est à déplorer.
C'est des spécimens qui ont été pour la plupart donnés. Ça va d'un Français qui était en train de faire la ruée vers l'or en Californie jusqu'au tsar Nicolas Ier qui en avait fait don au muséum également lors de sa visite en France. C'est des gens qui ont fait confiance à l'institution pour conserver et donner à voir ces collections. On craint fortement qu'elles soient fondues dans de l'or et c'est ça qui vraiment nous afflige.
Ce cambriolage a eu lieu alors que le muséum se remet à peine d'une cyberattaque survenue en juillet dernier. Si l'institution a pu récupérer ses données scientifiques et patrimoniales, son fonctionnement reste, lui, encore impacté. Les expositions se poursuivent, mais le muséum ne pourra pas ainsi ouvrir ses portes au public pour les journées du patrimoine.
Merci Pierre Robert. Un jeudi noir, l'intersyndicale qui appelle à faire grève demain dans la rue contre les mesures budgétaires prévoit plus de 250 cortèges. Côté transport, le trafic sera perturbé dans la capitale ainsi que les trains d'Île-de-France, un peu moins en région avec 3 TER sur 5 et 9 TGV sur 10. Puis à l'école, un tiers des enseignants des écoles maternelles et élémentaires seront grévistes selon le premier syndicat du primaire. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi avec encore des nuages persistants sur le littoral de la Manche et près de la frontière belge. Partout ailleurs du soleil. Quant aux températures, elles afficheront entre 18 et 29 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Axel Dubois. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.